Tible. Ah. Bon, je vous passerai un petit coup de fil quand on sera sur la route. Voilà. Parce que comment on va chercher Nicolas? Nicolas Savadogo arrive demain. En passant, on pourrait venir vous dire un petit bonjour. Je vous retéléphone. Voilà, gloire à Dieu. C'est bon, hein? Notre frère Nicolas qui arrive demain. Vous aimez Nicolas? Moi aussi, gloire à Dieu. On a plein de bonnes nouvelles. Donc Nicolas arrive demain. Le 3, je pars avec lui en Hollande, au Luxembourg, pour faire des réunions. Le 15, nous avons, le 15 septembre, nous avons une réunion avec Michel Molenda. Ça, c'est un miracle d'avoir ce frère-là avec nous et son épouse, les enfants, Michel Molenda. Et puis, le 28 septembre, nous avons une réunion à Paris avec le frère Pierre Gilbert. Alors maintenant, vous êtes tous au courant, même sur Internet, Richie a mis la photo de notre frère Gilbert avec Arthur Alamand et moi-même. Donc, ça se passera Porte des Lilas, métro Porte des Lilas. C'est un scoop que je vous donne parce que c'est même pas écrit sur la première page, mais ceux de Révélation Bible, mais ceux qui vont aller écouter, ils auront l'adresse. Ça se trouve métro Porte des Lilas et c'est l'église de Christ pour les Malgaches. Ça s'appelle l'église CMTN, 74 rue Pierre Soulier à Paris. Voilà, vous avez l'adresse. Et ça commencera à 10h le matin jusqu'à midi et demi. Et puis ensuite, ça recommence à 2h jusqu'à 17h. Et il y aura tout pour manger sur place. Tout est bien organisé. C'est le pasteur Perle. C'est une femme de Dieu qui nous reçoit. La sœur qui a prêché ici vendredi, qui nous recevra là-bas dans son église. Voilà. Mais alors, il faut venir, c'est seulement sur inscription, parce qu'il n'y a que 200 places. Donc, ceux qui sont inscrits les premiers pourront entrer, les autres, mais enfin, ils reprendront le métro Porte des Lilas, parce qu'on ne pourra pas, à cause de la sécurité, recevoir tout le monde. Donc, déjà, presque toute son église veut venir écouter. Alors, voyez, il faut vous dépêcher de vous inscrire. Donc, Porte des Lilas, le 28 septembre, je répète. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était pour les petites annonces, je pense que c'est bien. Alors, le gros scoop, c'est Michel Molenda. Alors là, qu'est-ce qu'on est content. Hein, ça fait moins, combien? Un an et demi qu'on n'a pas revu. Hein, ça fait plaisir. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 5, 45. Voyez, je perds mes petits bouts de papier. C'est ça d'avoir une Bible qui sert de. Merci. C'est des notes de prédication, des photos de famille. Comme je voyage beaucoup, j'aime bien avoir tout ça dans ma Bible. Matthieu 5, 45. Je vous fais la lecture. Est-ce que c'est assez fort le micro? Un peu plus, hein? Voilà, on va commencer déjà verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Je prends souvent des photos du château Sanctuary, là où nous vivons, depuis ma fenêtre, puisque moi-même, je ne vis pas, mon épouse et moi, nous ne vivons pas, je dis ça pour ceux qui nous écoutent sur Internet ou qui nous regardent là, à la télé, nous ne vivons pas dans le château, mais dans les communs du château. Et donc, tous les matins, quand on ouvre notre fenêtre, on voit le château magnifique, tout ça, j'aime bien prendre des photos. Alors, j'ai des photos du château. Sous le soleil, sous la pluie, avec la grêle, avec l'orage, avec la neige, avec des trompes de vent, dans la grisaille, dans l'automne, le printemps, enfin dans toutes les saisons. Et chacune de ces photos est magnifique. Et vous savez pourquoi chacune de ces photos est magnifique? Parce que le château est magnifique. Parce que le château est magnifique. C'est comme un bijou dont le parc est l'écrin en quelque sorte. Et je regarde souvent ces photos hier. Je regardais ces photos avant de préparer mon message et je pensais que dans notre vie aussi, à nous qui sommes magnifiques parce que nous sommes des enfants de Dieu, eh bien, il arrive que nous traversions des saisons différentes, des fois des saisons un peu difficiles. Certaines saisons de notre vie sont des saisons chaleureuses et agréable, et puis d'autres, non. Hein, un peu comme le printemps qu'on a eu cette année, c'était pas génial. Bon, on l'a traversé, c'est fait, c'est derrière. Certains jours de notre vie, ils sont aussi beaux que des photos de calendrier. Et puis, il y a d'autres jours, des jours de chagrin, des jours de maladie, des jours de deuil, des jours d'amertume, des jours de peine, des jours difficiles à vivre. Et quand ça va mal, il y a des gens qui prennent un billet d'avion et vont au soleil parce qu'ils pensent que ça va s'arranger. C'est pas vrai, ça s'arrange pas parce qu'on va au soleil. C'est nous qui devons, n'est-ce pas? C'est le problème vient de là, c'est en nous-mêmes. Et je vais vous expliquer quelque chose qui va certainement vous faire du bien ce matin. Mes frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, quand je regarde dans le rétroviseur de ma vie, quand je regarde dans mon passé, eh bien je m'aperçois que les périodes de grand développement, les périodes les plus productives dans ma vie ont presque toujours été des saisons orageuses, difficiles, pénibles, avec des épreuves. Et c'est pendant ces moments, pendant que je traversais des moments difficiles, que j'étais le plus créatif. Est-ce que vous avez, vous qui vivez avec moi depuis tant d'années, vous avez remarqué que c'est vrai, n'est-ce pas? Notre Père Céleste est plein de sagesse. Et il sait que pour nous, ses enfants, pour devenir les êtres qu'il veut que nous devenions, eh bien, c'est nécessaire. Nous avons besoin de connaître des saisons d'adversité. Frères et sœurs, sans opposition, la justice ne peut pas s'accomplir. J'ai appris que l'amertume dans la vie, elle nous permet de reconnaître, je dirais même que elle fait ressortir, elle nous permet d'apprécier la douceur de la vie. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce que dans le monde, tout a son contraire. Dieu l'a créé de cette manière. Le prince de ce monde, c'est l'ennemi, le diable. Et nous sommes là pour un but. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La Bible nous enseigne que l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Alors, les êtres intelligents, tous les êtres intelligents, c'est-à-dire ceux qui croient qu'il y a un Dieu, et tous ceux qui sont intelligents, qui sont revêtus de couronnes de gloire, qui sont revêtus de couronnes d'immortalité, qui sont revêtus de la vie éternelle, doivent passer victorieusement toutes les épreuves fixées par Dieu pour être intelligents selon Dieu. Parce que déjà, à la base, ils sont intelligents puisqu'ils disent « Ah, ben, il doit y avoir un Dieu quand même », puis ils cherchent. Il y a une base d'intelligence. Et ensuite, il faut devenir intelligent selon Dieu. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas intelligents selon Dieu, nous ne pourrons pas obtenir la gloire qui vient de Dieu. Nous pourrons obtenir la gloire qui vient des hommes, peut-être, mais celle qui vient de Dieu s'obtient autrement. Toutes les calamités qui peuvent s'abattre sur les mortels, elles s'abattent aussi sur nous. Vous vous rappelez, toute la pluie tombe sur moi. La même chose, mais le but est différent. Pour nous, c'est différent. Pour nous, le but est différent. C'est pour nous préparer à jouir de la présence de notre Seigneur. Toutes les épreuves, toutes les expériences que vous avez traversées sont nécessaires à votre salut. Vous êtes sauvés. Mais il faut travailler à votre salut, n'est-ce pas écrit? Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Il faut travailler à notre salut pour rendre notre salut glorieux. Pas simplement être sauvé comme au travers du feu, mais être, ça veut dire sauver au travers du feu, c'est-à-dire sauver à la dernière minute, on vous arrache, vous sentez le cramer, bon, c'est pas très glorieux. Mais sauver et en plus, ayant travaillé notre salut, nous arrivons avec un poids de gloire. C'est ça que Dieu veut. Nous devons travailler à notre salut. Alors, les épreuves, les expériences difficiles par lesquelles vous pouvez passer, mais aussi les bons moments, ils sont nécessaires à notre salut. Mes frères et sœurs, la question, c'est pas de savoir si nous allons connaître encore des saisons d'adversité, c'est pas la question. La question, c'est comment nous allons supporter les tempêtes. C'est comment nous allons traverser les tempêtes. Et c'est, est-ce que nous allons réussir l'examen? Est-ce que nous allons réussir l'épreuve? Une épreuve, c'est un examen. Vous savez, pendant les saisons changeantes de la vie, parce que tout change, quand on est en haut, on ne peut faire qu'une chose, c'est descendre. Quand on est en bas, on ne peut faire qu'une chose, c'est remonter. Dans les saisons changeantes de la vie, nous avons la précieuse possibilité de nous tenir fermement sur la parole vivante de Dieu, la Bible. Parce que les recommandations qu'on trouve dans les Saintes Écritures, elles ne sont pas là seulement pour nous aider à supporter les tempêtes, mais aussi à nous amener au-delà, c'est-à-dire jusque dans notre au-delà glorieux, plus ou moins glorieux selon la réussite ou l'échec à nos examens. C'est clair? C'est ça, travailler à notre salut. C'est profiter des difficultés pour se parfaire afin de pouvoir hériter d'une exaltation lorsque nous arriverons devant Dieu. Et non pas arriver simplement en disant « Ah, merci, tu m'as sauvé. Oui, bon, bah, pour, là, c'était difficile. Hein. C'était dur quand même. Et puis bon, bah, je n'ai pas fait grand-chose. Oui, j'avais un talent, mais bon, je l'ai mis là. Bon. » Ce monde, il est sous l'oppression du prince des ténèbres, on le sait. Bon. Et dans notre passé éternel, nous avons choisi de venir ici pour glorifier notre Père Céleste par notre comportement, c'est-à-dire par des actes qui résultent de notre foi. Il faut que notre foi soit solide dans les Écritures, dans ce que Jésus a dit. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et à partir de là, nous posons des actes qui font que l'ennemi est mis en échec. C'est pas nous. C'est pas normal qu'on soit dans l'échec. C'est l'ennemi qui doit être dans l'échec. Et c'est nous qui le mettons dans l'échec au nom de Jésus par nos actes de foi. Alors, Dieu a donné, par l'intermédiaire de ses prophètes, sa parole. Je vous donne ma parole que. Voilà. Il nous a donné sa parole, qui est notre précieux trésor de connaissance, qui est destiné à nous guider, qui est destiné à nous guider à travers les saisons difficiles, différentes, surprenantes, bizarres, à travers tout ça, vers des joies indescriptibles que nous allons connaître dans l'au-delà, vers une lumière éclatante de vie éternelle, mais attention, qui va être plus ou moins éclatante, selon la façon dont vous aurez passé les épreuves. Alors, une partie importante de votre vie ici-bas, c'est d'acquérir la force, le courage et l'intégrité, de vous tenir fermement à la vérité, de vous tenir fermement à la justice, malgré les tourments, malgré les problèmes, malgré tout ce que vous pouvez connaître et rencontrer dans votre vie. Ceux qui sont entrés dans les eaux du baptême et qui ont été scellés à la famille de Dieu par l'Esprit de Dieu, tous ceux-là se sont engagés sur un chemin de disciples. Et ils doivent suivre de manière constante et fidèle les pas du Seigneur, le Seigneur. Le Seigneur nous enseigne que le soleil se lève sur les méchants aussi bien que sur les bons. On peut dire, c'est pas juste, ça serait bien le soleil pour nous, puis la pluie pour eux. Ben non. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. On est tous au même rang, si vous voulez. Maintenant, le but pour nous est différent. Parfois, il arrive qu'on ne puisse pas comprendre pourquoi des choses difficiles, injustes même, se produisent dans notre vie ou dans la vie autour de nous. On n'a pas le pouvoir de comprendre. À cause de notre limitation, nous sommes dans la condition mortelle, nous sommes limités, notre mémoire du passé éternel a été effacée, nous sommes dans une limitation terrible. Mais si nous ne pouvons pas comprendre, nous savons, en tant que disciples éduqués et instruits, que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors, la parole prophétique, c'est quoi? C'est chercher diligemment, prier toujours, croyez et toutes choses concourra à votre bien si vous marchez avec droiture et si vous vous souvenez de l'alliance que vous avez passée avec Dieu et avec vos frères et sœurs. Il me dira, ah bon, mais tu rajoutais la parole de Dieu. La parole de Dieu dit pas ça. La parole de Dieu dit que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent et qui sont appelés sur son dessein. Oui, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Je l'ai dit un peu autrement, mais c'est exactement ça que ça veut dire. Toutes choses concourent ensemble à notre bien, mais pas automatiquement. Cette parole sacrée, premièrement, elle s'adresse à ceux qui ont cette intelligence de croire que Dieu est vivant. Ensuite, elle s'adresse à ceux qui aiment Dieu au point de le suivre diligemment comme des disciples. Ensuite, elle s'adresse à ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est quoi le dessein? Si je demande à Titi qu'est-ce que c'est le dessein de Dieu, il va me montrer un dessin au feutre. Parce qu'il ne connaît pas encore l'orthographe. Ça fait rire les professeurs parmi nous. Selon le dessein de Dieu, oui, c'est-à-dire selon son intention. Il a une intention. Un dessein, c'est ça, c'est une intention. Selon son idée précise, il a une idée précise. Il nous a choisis délibérément à dessein pour un destin. Et tout est fixé. Oh, pourquoi pas entrer? Pourquoi ne pas entrer consciemment dans le plan de Dieu que ce Seigneur Dieu Tout-Puissant a préparé? Pourquoi ne pas rentrer en toute conscience, connaissant ces choses, ayant été éduqué, instruit de ces choses? Pourquoi ne pas se soumettre? Pourquoi ne pas croire que Dieu, en toutes choses, a de bonnes intentions pour vous? Et c'est ça la foi. C'est de croire que Dieu a de bonnes intentions pour vous. La foi, c'est ça. C'est une foi qui nous conduit à une œuvre, c'est-à-dire à un acte honorable, louable, à un acte qui le glorifie. Et c'est ça le but de l'épreuve. C'est que nous posions des actes qui le glorifient, même quand ça ne va pas. C'est facile quand ça va. Et encore. Nous avons fait une alliance avec Dieu, mes frères et sœurs. Et donc avec son Église. Ce n'est pas indépendant. Or, quand nous avons fait cette alliance, nous savions très bien que ça serait des fois difficile. On ne comprend pas toujours Dieu. Et puis alors, aussi, on ne comprend pas toujours les frères et sœurs. Ah, vous comprenez tout le monde, vous? Mais nous avons donné aussi notre parole de le suivre. Nous avons donné notre parole de respecter notre engagement, notre alliance, toute notre vie. Je me rappelle quand je vous ai baptisé, est-ce que tu veux suivre le Seigneur tous les jours de ta vie? Et les larmes aux yeux, vous avez dit oui, avec les yeux brillants, oui. Ah oui, vous l'avez dit. Vous avez donné votre parole, Dieu a donné sa parole, vous avez donné la vôtre aussi. C'est une alliance. Nous avons donné notre parole de le suivre toute notre vie. Et notre vie, c'est pas que le printemps, les petits oiseaux et les fleurs. Hein? C'est aussi la chaleur éprouvante de l'été, la grisaille de l'automne, et la neige de l'hiver avec la boue et la glace qu'il faut gratter sur le pare-brise. C'est-à-dire tous les problèmes, toutes les choses que... Enfin, moi, j'aime pas. Il y en a qui adorent la neige, hein? Moi, j'aime pas. Vous aimez? Moi, j'aime pas. Nous savons que nous ne serons pas à l'abri de la pluie ni du soleil. Il y en a qui disent, ah, le soleil. Moi, j'aime pas. C'est rigolo, hein? J'aime pas le froid, j'aime pas le soleil non plus. On est allé à bord de mer, ma femme avec les petits-enfants, oh, ils étaient contents, ils sont allés au bord de la mer. Moi, je suis resté dans l'hôtel, j'ai bouquiné, j'aime pas aller au bord de la mer. Ça m'embête, la mer. C'est de l'eau. Le soleil, ça nous cuit. On pue. Après, on rentre, on se douche, on est fatigué. Moi, je suis... Non, j'aime pas. Bon, ben voilà. Mais alors, donc, je suis pas à l'abri du soleil, hein, de cette épreuve de la mer, des vacances épouvantables au bord de la mer. Il y en a qui rigolent quand je dis ça. Nous savons que des épreuves nous attendent, on en aura encore. Et que si nous ne les passons pas correctement, ces épreuves, c'est-à-dire si on ne les réussit pas, si on a un 4,5 sur 10, non, on ne réussit pas. Eh bien, Dieu, dans son amour, nous donnera de nouvelles chances. Quelle chance? Eh bien, de repasser notre examen, c'est-à-dire de repasser par la même épreuve, avec quelques petites modifications pour amplifier la chose. Et ça, c'est son amour qui fait ça. Parce que ce qu'il veut, c'est nous former pour la gloire à venir, mes frères et sœurs. Alors réjouissez-vous au sein de l'épreuve, sachant cela. Il y a des cycles. J'ai observé ça dans ma vie et j'ai observé ça dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu. Il y a des cycles. Ça marche de 7 jours. 7 semaines, 7 mois ou 7 ans, je prie pour que si vous ratez une épreuve, si vous ratez un examen, que ça ne dure pas 7 ans avant de recommencer, de repasser, parce que c'est long, 7 ans. Mes frères et sœurs, en qualité de membre du corps de Christ, de son Église, membre de la communauté rétablie en tant que chrétien, nous servons joyeusement notre Seigneur de bon cœur par tous les temps, et en toute saison. Amen. Vous savez, quand on agit comme ça, alors notre cœur se remplit petit à petit de foi. Et d'une foi sainte, d'une foi qui est sanctifiée, qui est purifiée comme l'or. Et notre cœur se remplit d'espérance aussi. Et cette foi, accompagnée de cette espérance, nous procure la guérison. La guérison qui germe, elle ne germe pas toujours très rapidement. C'est une guérison, ce n'est pas un miracle. Une guérison, ça peut prendre du temps. Un miracle, ça arrive tout de suite. Une guérison, ça peut prendre du temps. Mais la foi avec l'espérance, ça amène la guérison avec l'amour du ciel. Vous savez, chacun de nous, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, on devra toujours et encore passer par toutes les saisons agréables et douloureuses. Alors, il faut que ce matin, nous renouvelions notre alliance avec Dieu et que nous mettions notre espérance, notre foi en Jésus-Christ, dans sa parole, et que nous marchions à la lumière de Jésus-Christ, que nous décidions de le faire réellement. Parce que, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes des pauvres bougres sans savoir, sans connaissance, une bande d'orphelins de père et de mère? Non, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il est notre Père céleste et l'Église, c'est notre mère. Alors nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls. Jeunes comme vieux, nous sommes, en tant que disciples, déterminés à apprendre de lui. On peut très bien être dans l'Église et ne rien apprendre du tout parce qu'on n'est pas attentif, parce qu'on est somnolent, ou on peut être déterminé à apprendre. Et je prie pour que vous soyez de ceux-là. Déterminé à l'aimer, à apprendre, à aimer vos frères et sœurs premièrement, et ensuite à aimer votre prochain, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde. On chante un chant que j'aime de plus en plus, c'est le vieux pèlerin. Ben c'est ça que nous sommes. Nous sommes il y a des jeunes pèlerins, puis il y a des vieux pèlerins. Et nous sommes des pèlerins, notre vie c'est un pèlerinage. Michou a lu un livre extraordinaire sur un homme qui a fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, qui raconte comment ça s'est passé et tout. Il ne l'a pas fait en tant que chrétien, mais voilà, c'est une expérience de faire quelque chose comme ça. Et sur la route, nous marchons avec la ferme résolution d'atteindre notre but céleste. On ne dit pas, ben, je vais y aller, et puis bon, ben, si jamais je n'arrive pas, tant pis. Non, si on prend le départ, c'est pour aller à l'arrivée. Alors soyons des disciples du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Amen. Soyons des saints en toute saison. Ça pourrait être le titre de la prédication. Soyons des saints en toute saison. Si on considère, mes frères et sœurs, notre condition mortelle comme la totalité de notre existence, alors les douleurs, le chagrin, les échecs, la maladie, les trahisons et toutes les choses difficiles sont vécus comme des calamités, comme des injustices, comme quelque chose qui n'a pas de sens. Mais si nous voyons la vie comme quelque chose d'éternel qui s'étend loin dans le passé éternel et loin dans le futur éternel, on appelle ça l'éternité post-mortelle, je commence à dire des beaux mots, hein. Alors, tout ce qui nous arrive a un sens, parce que ça peut être mis dans la perspective correcte, dans la perspective qui convient, parce qu'on a les trois dimensions, le passé, le présent et l'avenir. Alors on est exposé à la tentation, ben c'est afin de mettre notre force de caractère à l'épreuve. On est confronté, exposé à la maladie, afin d'apprendre. Oh là, si frère Osborne m'entendait, il dirait, oh là là Michel, attention, qu'est-ce que tu vas dire? Afin d'apprendre à lutter contre. Amen. La maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du diable. Et quand on est malade, eh bien, c'est une chance de pouvoir lutter contre quelque chose de mauvais. Job 2:7. La Bible nous dit que Satan est sorti et il frappa Job d'un ulcère malin. La maladie de Job venait directement du diable. Voilà, ça, la Bible veut que je sache ça. Je note aussi que Jésus a dit d'une femme qui était courbée, et moi j'en ai vu beaucoup en Afrique, des femmes qui étaient courbées, des hommes qui étaient courbés, que c'est Satan qui la tenait liée et qu'elle avait un esprit d'infirmité. Luc 13, 11 à 16. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre au travers de la maladie? Bien sûr, il y en a qui disent la patience, etc. Mais c'est surtout de lutter, de la chasser. Si l'on ne pense pas que la maladie vient du diable, on ne va pas la chasser. Parce que si elle ne vient pas du diable, elle vient de Dieu pour nous apprendre quelque chose. Donc on ne va pas chasser quelque chose que Dieu nous aurait envoyé. Mais si on sait que c'est le diable qui envoie la maladie, alors on est fort, on sait que nous sommes l'ennemi de la maladie. Et au nom de Jésus, on la chasse. La cécité de cet homme qu'on trouve dans Matthieu 12, 22. La Bible nous dit qu'elle était causée par un démon, Matthieu 12, 22. Et que quand Jésus a chassé le démon, l'aveugle a pu voir, oui ou non? Alors, dans Actes 10, 38, il est écrit que Jésus allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Donc nous sommes dans un monde où l'ennemi, le diable, les démons et tout ça, ces mauvais esprits, sont les maîtres. Mais nous avons été envoyés dans ce monde pour montrer un comportement de vainqueur contre cet ennemi. Donc, quand la maladie nous atteint, au nom de Jésus, nous mettons tous les moyens qui sont à notre disposition pour résister, chasser ces esprits-là et les renvoyer dans leurs ténèbres et vivre, nous, délivrés de ces choses pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Mais nous sommes aussi des fois exposés, enfin, c'est des fois, jusqu'à aujourd'hui tous, hein. Non, on n'est encore pas passé, mais nous sommes exposés à la mort. Et pourquoi? Eh bien, pour que nous devenions immortels. Pour que nous devenions glorifiés, que notre corps reçoive la glorification, que nous soyons exaltés dans la présence de Dieu. Donc, toute chose, même la mort, met un gain, dit l'apôtre Paul. Oui ou non? Mes frères et sœurs, laissez s'écouler votre chagrin, laissez-le partir, laissez partir votre peur, ne la gardez pas, ne la chérissez pas, n'en parlez pas, laissez-la, remettez-la entre les mains de Dieu et laissez-la partir. Francis me racontait hier le témoignage d'une femme à qui il avait parlé et qui était remplie d'amertume parce qu'elle avait perdu un enfant et il lui a dit, mais va, pourquoi tu m'en parles? Parle-en à Dieu et puis tiens, pendant que tu y es, dis-lui aussi de te délivrer ta cigarette parce que tu pues. Et le lendemain, elle est venue, cette femme, elle a tapé à la porte à 8h du matin. Et Francis a ouvert, elle a dit, mais qu'est-ce que t'as, ma sœur? Elle lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Comment ça, qu'est-ce que je t'ai fait? J'arrive même pas à fumer ce matin, ça me dégoûte. Elle était non seulement délivrée de la cigarette, mais aussi de cette peine, de ce chagrin. Parce qu'elle a expliqué, j'en ai parlé à Dieu et il m'a lavé de ça. Parler de Dieu, parler à Dieu de ça et comptez sur son aide pour qu'il vous délivre. Tournez-vous vers l'avenir. Il est rempli de promesses, de possibilités infinies. Dieu a une intention. Il a une intention. Il a un dessein. Il a un plan pour vous. Aux yeux des gens, vous êtes peut-être rien du tout. J'étais avec les frères hier quelques instants sur le marché. Nous avons chanté des cantiques et nous avons donné des tracts. Et les gens, la plupart, nous regardaient comme si on était les tarés du coin. Et il y en a même une qui a secoué la tête en disant, n'importe quoi, n'importe quoi. Et voilà, il y a un monsieur qui est passé, poussé par une dame. Le monsieur était en chaise roulante et j'ai voulu donner un tract. Et la dame a dit, non. Je lui ai dit, mais attendez, je donne au monsieur. C'est non. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous passez pour des idiots, vous passez pour des méchants, vous passez pour une secte, vous passez pour tout ce que vous voulez. Mais Dieu sait qui vous êtes et il a un plan pour vous. Regardez comment sa façon de faire n'a pas changé. Regardez comment il a choisi un missionnaire zélé. Regardez, est-ce qu'il a trouvé ce missionnaire zélé parmi ses défenseurs? Non, il l'a trouvé parmi ses adversaires. Et Saul le persécuteur est devenu le prédicateur qui a réussi à convaincre le monde non-juif. Amen. Vous voyez, voilà comment Dieu fait. Dieu se choisit des hommes et des femmes imparfaits pour enseigner le chemin de la perfection. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous êtes dans l'eau. Et je suis aussi dans l'eau. Et Dieu n'est pas prêt de changer. Et il fera encore la même chose. Il vous appelle. Il nous appelle. Vous et moi, à le servir ici-bas, à nous mettre au travail. Et il exige un engagement total. Comme on écrit dans notre cuisine, tout ce qui est fait avec amour prend de la valeur. peux faire la vaisselle sans amour. Eh ben, aux yeux de Dieu, ça n'a pas de valeur. Pour moi, oui. Parce que la vaisselle est faite, et le lendemain, on mange dans des plats propres. Pour moi, c'est super, c'est suffisant. Mais pour Dieu, non. Et il voit, et il tient la comptabilité. A fait la vaisselle pendant 6 mois, en faisant la gueule, sans amour. Eh ben, vous n'aurez pas votre récompense. Pourtant, vous l'avez faite, la vaisselle. Pourquoi vous n'avez pas mis un peu d'amour dedans? Vous auriez eu une récompense. Bande de... Vous êtes des crétins. Mettez de l'amour. Hein? Mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Réjouis-toi et sois fidèle. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais et tu seras comblé. Voilà, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On le sait, faire la vaisselle, c'est pas rigolo. Moi, je la fais aussi, la vaisselle. C'est pas rigolo, j'aime pas tellement. Mais je mets de l'amour dans ce que je fais. Et puis ça marche, ça tient. Puis en général, quand on met de l'amour dans ce qu'on fait, ça va plus vite. Ok, ça va plus vite. Alors, il exige de nous un engagement total. Et pour faire de nous ce qu'il veut, alors il nous fait passer de temps en temps par des épreuves. Comme à l'école, on passe par des examens pour voir où on en est. Hein. Et puis, la Bible nous dit aussi par le creuset, c'est-à-dire que l'or que nous sommes, vous êtes de l'or, eh bien cet or, il est purifié parce que dans le creuset, c'est là où on fout le feu. Et puis l'or, ben, il est purifié de toutes ses scories. L'or est séparé, on peut enlever les scories, c'est-à-dire les scories, c'est ce qui n'est pas bon dans votre vie. Vous savez, quand on va chercher de l'or, eh bien moi, je ne sais même pas reconnaître de l'or d'un simple caillou. Hein. Nicolas, lui, il sait. Il a un nez formidable pour ça. Il voit quelque chose, il dit, ah, c'est, il y a de l'or là. Eh bien, c'est vrai. Il le passe au creuset et hop, il y a beaucoup de cailloux, de saleté, de toutes sortes de trucs qui s'en vont. Mais il y a un tout petit peu d'or, il est là, alors il le met de côté. C'est rigolo, c'est comme ça. Ben, Dieu fait la même chose avec nous. Il nous passe au creuset dans la difficulté et c'est nécessaire. Alors de grâce, passez brillamment les épreuves. Déjà, premièrement, arrêtez de faire la gueule. Ça coûte pas cher de montrer un sourire et c'est plus agréable pour tout le monde. Moi, je vais essayer une fois. Si j'en vois encore 2 ou 3 qui font la gueule dans la communauté, je vais me mettre à faire la gueule pendant 1 ou 2. Vous allez voir comme c'est agréable, c'est épouvantable. Faites du mieux que vous pouvez. Comptez sur son aide et sur l'aide aussi des frères et sœurs. Ne baissez pas les bras. Fortifiez vos genoux languissants, la Bible nous dit. Ça veut dire quoi, fortifier les genoux languissants? Ça veut dire aller dans la prière. Il ne t'abandonnera pas, il viendra à ton secours, il te soutiendra de sa droite triomphante. Telle est la promesse, au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Fortifie chacun et chacune pour que chacun et chacune puisse se rendre compte du privilège qu'il a et qu'elle a de pouvoir te glorifier dans une épreuve, dans une difficulté. Merci Seigneur aussi de nous permettre de jouir des bons moments, des bonnes saisons dans lesquelles on peut passer. Merci Seigneur Jésus de l'équilibre que tu as prévu pour notre vie. Et je te prie que nous soyons toujours conscients de tes bonnes intentions pour nous et que nous n'en doutions pas. Merci Jésus. Amen. Merci.